Bonjour et bienvenue sur responsabledaffaires.fr. Je suis Olivier Delay et aujourd'hui, nous allons parler management, les 9 erreurs que vous pouvez commettre qui vont faire démissionner les personnes compétentes. Mais avant cela, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre « Comment rédiger des courriels efficaces pour faire avancer au projet » juste à droite de ce podcast ou en dessous de l'article. Une fois que vous aurez téléchargé, vous serez également dans la liste newsletter où vous recevrez les articles privés. Quelles sont donc ces 9 erreurs qu'en tant que manager, vous devez vraiment éviter et limiter au maximum? Parce que vos employés compétents vont démissionner puisqu'ils ont une réflexion, une approche, ça va leur faire fuir finalement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'était un podcast que j'avais envie d'enregistrer parce que, eh bien, on voit beaucoup de personnes toujours dans les entreprises qui démissionnent et ce sont souvent celles qu'on évalue les plus compétentes. Et pourquoi elles sont parties à un moment donné? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelles sont l'une des erreurs qui leur est arrivée? Je me suis posé cette question et j'ai cherché sur le sujet, je me suis documenté par la recherche d'articles. J'ai aussi chercher dans quelques bibliothèques certains livres sur le sujet. J'ai pas vraiment trouvé de personnes qui s'étaient préoccupées de savoir ça. J'ai trouvé ma vie dans des articles et j'ai compilé pour vous aujourd'hui mes recherches. Donc les 9 raisons vont vraiment vous paraître peut-être adaptées ou pas adaptées. Je les ai choisies parce que je les trouve réelles et absolument logiques. La première des raisons, c'est qu'ils donnent trop de travail à leurs subordonnés. Les managers donnent trop de travail à leurs subordonnés. Il n'y a rien de tel pour épuiser son personnel que le surcharger de travail. Les managers, ils résistent rarement à l'envie d'exploiter au maximum leurs salariés les plus compétents. Et donc, ils vont les surcharger de travail, ce qui va leur donner l'étrange impression d'être punis pour leurs bons résultats finalement. Parce que ils sont trop surexploités. Il y a Stanford qui a fait des études, l'université de Stanford, et qui a démontré que la productivité d'une personne diminue énormément quand on dépasse 50 heures de travail par semaine, et qu'au-delà de 55 heures, ça apporte plus rien de travailler. Donc si vous continuez à augmenter la charge de vos salariés, les plus capables, finalement ceux qui vous rapportent le plus, il faut que vous leur donnez des contreparties. Et ça, très souvent, les managers l'oublient. Ils n'ont donné aucune contrepartie, mais que les inconvénients. Une charge de travail qui peut passionner le salarié, peut-être, mais qui ne connaît pas quelqu'un qui n'a aucune vie de famille à 35-40 ans parce qu'il donne tout à son entreprise et que son entreprise en profite. Mais ne lui conseille absolument pas de continuer à travailler avec les performances qu'il fait tout en développant sa vie de famille. Personne ne le fait. Donc un employé talentueux, il peut accepter une certaine surcharge, mais il ne restera pas dans la sensation de s'étouffer. Donc les augmentations, les promotions, les nouveaux postes sont des éléments qui peuvent vous permettre de donner une contrepartie à votre salarié. Mais si vous ne donnez absolument rien, encore une fois, ils iront trouver mieux ailleurs. Et quand on change d'entreprise, on arrive avec ces conditions. Et là, même si une fois que les conditions dans la nouvelle entreprise ont été définies et qu'il revient pour vous dire « voilà, j'ai trouvé une nouvelle entreprise », il est déjà trop tard, le capital confiance est dépassé et surtout, on est humain, vous aurez du mal à vouloir changer votre psychologie par rapport à la façon de donner le travail. Puisque forcément, vous avez donné des chiffres à votre direction si vous êtes dans un grand groupe dans lequel vous avez annoncé un volume en estimant que votre salarié va y contribuer. Si demain, il ne veut plus travailler parce que vous donnez une contrepartie qu'il demande, ça peut changer les choses. Ou tout simplement, vous perdez la personne. Et des fois, je suis stupéfait de voir que certains managers préfèrent laisser partir leur personne pour après se rendre compte que le chiffre d'affaires annoncé avec la marge annoncée ne pourra même pas être réalisé dans l'année, que tout le monde va être en surcharge, qu'en plus, la première cause, c'est ce management qui n'est pas adapté du tout, et que du coup, on va se remettre dans un mode de management avec moins d'effectifs pour essayer de faire le même chiffre d'affaires si le volume de commandes est présent. C'est un non-sens qui est total. Et en tant que manager, vous devez absolument dans toutes les situations préparer les contreparties qui sont demandées et qui se présentent à vous. C'est un point important. C'était la première raison qui poussait les employés compétents à quitter leur travail. Deuxième raison, les managers ne savent pas reconnaître l'apport de chacun ni récompenser un travail bien fait. On revient encore sur cette contrepartie. L'importance d'un petit compliment. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans d'autres articles. Mais honnêtement, les employés les plus compétents, ce sont souvent les plus motivés. Et comme toute personne, elles aiment être félicitées. Et c'est particulièrement vrai quand on a travaillé dur et qu'on a donné le meilleur de soi. Parce que suivre une affaire, c'est quelque chose de très solitaire. On vous donne un budget, on vous donne une passation de dossier si c'est pas vous qui avez chiffré, et on vous dit voilà, bonne chance, tu dois faire le mieux possible pour mener à bien cette entreprise que nous avons décrochée. Mais derrière, les personnes les plus compétentes, personne ne vient les voir. Personne. On vient juste voir le résultat et encore, on va se plaindre parce qu'une partie du budget n'a pas été dépensée comme on l'aurait dépensé si nous-mêmes on avait suivi l'affaire en tant que manager. C'est un non-sens encore une fois. Qui peut se permettre de dire quelque chose quand on a absolument juste un recul extraordinaire sur l'entreprise qui a été réalisée et que finalement on arrive après la bataille. Tout ce genre de discours, ça nuit grandement à votre relation et à la motivation. Posez des questions sur qu'est-ce qu'on a vu dans cet article-là. Racontez-moi ce qui s'est passé durant cette affaire. Quels sont les événements difficiles. Il faut que votre employé vous parle, que votre responsable d'affaires vous parle de ce qui s'est passé, de ce qui était difficile, car finalement c'est ça la reconnaissance. C'est savoir écouter quelqu'un qui a entrepris, qui s'est senti solitaire. Parce que tous dans nos affaires, on se sent tellement solitaire parfois. Parce que tout le monde, nos managers ont plein de choses à faire également. Ils ont les problèmes de nos collègues qui sont peut-être moins compétents que nous. Et la reconnaissance, racontez-moi ce qui s'est passé de manager. Et c'est ce que vous devez faire en tant que responsable d'affaires auprès de vos équipes. Que s'est-il passé? Ils doivent s'exprimer, ils doivent vous donner leurs sentiments. Déjà, ça permet vous de comprendre quelles étaient les problématiques rencontrées, parce qu'on n'est pas omniscient sur tous les sujets, malgré qu'on fait des exécutions toute l'année. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de comprendre? Qu'est-ce que je vais apprendre de cette situation? Qu'est-ce que vos salariés ont appris? Et le fait qu'ils parlent et qu'ils vous masterisent un peu l'histoire des moments difficiles, vous allez me dire que peut-être, à ce moment-là, j'aurais pu les aider. J'ai pas vu le signe avant-coureur, j'ai laissé une... Parce que j'étais préoccupé moi aussi par le nombre d'affaires que j'avais ou le nombre de choses que j'avais sur mon bureau à réaliser que j'ai zappé de reconnaître l'apport que chacun a réalisé. Mais j'ai pas récompensé ce travail bien fait. Donc vraiment, deuxième point, c'est ne pas reconnaître, n'avoir aucune reconnaissance finalement. Et c'est quand même quelque chose qui est encore très souvent, très très souvent négligé. Et... voilà, il va falloir y se prendre en main. Le troisième point, c'est encore une... Beaucoup de ces erreurs vont en fait être imbriquées les unes dans les autres. On dit qu'il y a beaucoup plus de conséquences que la cause. Il y a 20% de cause pour 80% des conséquences. On aura l'occasion d'en reparler avec la loi Pareto, une loi qui est juste incroyable à connaître. Surtout si vous voulez augmenter significativement votre productivité. 20%. Des causes produisent 80% des résultats. Et c'est clairement aussi ça. Le troisième point, c'est qu'ils ne se soucient pas les managers de leurs employés. 50% des départs, voire plus, sont dus à une mauvaise relation avec un supérieur. Les meilleures entreprises s'assurent que leurs managers savent trouver le juste équilibre entre professionnalisme et relationnel. En fêtant chaque réussite, en faisant preuve de compassion lors des moments difficiles, ou en demandant beaucoup de leurs subordonnés, même quand c'est difficile. Voilà, c'est une phrase que j'avais notée pour vous la lire. Cette phrase, elle est juste incroyable. Les meilleures entreprises s'assurent que leurs managers savent trouver le juste équilibre entre professionnalisme et relationnel. Et ça, force est de constater, vous le savez, vos managers sont très souvent les bonnes personnes, les bons amis d'un tel, etc. ou les petits-fils d'eux. On n'est pas en train de vouloir critiquer quelqu'un ou un type de personne. Ce qu'on dit juste, c'est que il est nécessaire de pouvoir avoir une qualité relationnelle. Vous pouvez être le fils de quelqu'un, mais alors dans ce cas-là, vous devez avoir fait des écoles, ou au moins l'école de la vie, avoir voyagé, avoir appris à reconnaître quelqu'un, à ne faire aucune considération sur sa couleur de peau, sur sa personnalité, sur les revenus qu'il a, et fêter chaque réussite. Fêter chaque réussite. Être quelqu'un qui puisse mettre la lumière sur vos collaborateurs et vos employés. Car vous n'êtes rien sans ces personnes. Et les patrons qui manquent d'intérêt pour leurs employés ont de forts taux de renouvellement de personnel. Il est impossible de travailler plus de 8 heures par jour pour quelqu'un qui ne s'implique pas personnellement et qui ne s'inquiète que de productivité. Vous avez un patron qui regarde sa montre à chaque fois que vous passez dans le couloir avec votre sacoche ou votre manteau. Franchement, vous avez envie de travailler plus de 8 heures? Vous avez envie de travailler plus de 5 ans? Si vous êtes regardé continuellement et pas du tout considéré pour l'homme que vous êtes ou l'être humain que vous êtes, c'est juste pas possible. On est au 21e siècle. On n'a jamais autant travaillé vite. On n'a jamais autant. On travaille vite grâce à ces moyens de communication qui sont juste extraordinaires, mais on n'a jamais autant été préoccupé, autant été harcelé. Mais est-ce qu'on peut accepter finalement d'être toujours et continuellement policé par son manager? La réponse est clairement non. Et ce troisième point le complète. Quatrième point, et celui-ci, je pense que vous aurez une anecdote qui va venir en tête dès que je vais énoncer ça. Les managers ne respectent pas leurs engagements. Alors, là encore, j'ai entendu, je me souviens d'amis qui m'expliquaient que dans leur entreprise, carrément, ils disaient, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent en parlant de leur manager. Vous vous rendez compte? C'est le summum de ce qu'on peut dire. Donc, ils ne respectent pas leurs engagements. Tout simplement, c'est ils promettent des choses. Et quand on promet, c'est se placer dans une position délicate. Soit vous rendez les gens très heureux, soit ils prendront la porte. Donc, méfiance. Si vous, en tant que manager, à votre niveau, vous promettez des choses, soit ça les rendra heureux, vos employés, très bien, parce que vous allez aller au bout, soit ils prendront la porte. Si vous respectez vos engagements, et que vous montrez que vous êtes digne de confiance, et c'est quand même deux qualités qui sont fondamentales dans votre poste, hein, l'engagement que vous avez avec les autres, et être digne de confiance. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez même pas critiquer ou réfléchir. Bah, quand vous avez ces deux qualités fondamentales, vous gagnez le respect et la sympathie de vos employés. Vous pouvez aller partout. Et c'est vrai que certains managers ont ce souci d'engagement, digne de confiance et cette communication finalement. Parce que les deux allient forcément la communication. Bah, vous gagnerez le respect et la sympathie de vos employés. Mais gare à vous si vous manquez vos obligations, car pour paraître hypocrite. Vous paraîtrez hypocrite, pardon, insensible et respectueux. Et ça, vos employés détestent être face à des machines. Si vous considérez absolument rien de leur travail, c'est dans le moment difficile, vous remettez la faute sur eux, eh bien, ça n'a pas duré très longtemps, car même s'ils ont une vie de famille, même s'ils ont un cri sur le dos, à un moment donné, vous savez, la petite goutte fait déborder le vase, et les gens, quand ils se mettent en action, généralement, moi, je connais personne qui ne trouve pas de travail. Quand on a un moteur puissant derrière soi, généralement, on sait trouver la porte sans problème. Donc, c'était le quatrième point que les managers ne respectent pas leur engagement et ça fait partir les personnes compétentes. Le cinquième point, et celui-ci, vous allez certainement reconnaître certains exemples, les managers embauche et donne des promotions aux mauvaises personnes. Les meilleurs employés, malheureusement, ceux qui travaillent dur, bah, ils veulent collaborer avec des professionnels qui ont la même vision du travail? Avez-vous déjà été sollicité pour savoir ce que vous pensiez d'un salarié en candidature qui arrivait? Il y a une candidature qui est ouverte sur un poste qui est similaire au vôtre. Et est-ce qu'on vous a convié? La réponse est clairement non. Et vous voyez débarquer des personnes qui sont absolument incroyablement pas du tout adaptées à votre réalité. La diversité n'est pas un sujet dans lequel on peut se préoccuper, car la diversité c'est important. Il faut que vos managers choisissent effectivement une grosse diversité, avoir un panel de responsables d'affaires, car quand on est tous pareils, et ben on a des très grosses compétences dans partout, mais par contre, des grosses faiblesses. Par contre, quand il y a une diversité d'âge, de perception des affaires, de rigueur, de relationnel, tout ça, ça permet de nourrir tout le monde. Donc effectivement, la diversité, le candidat qui doit arriver pour renforcer l'équipe ou pour remplacer quelqu'un, cette personne-là, il faut effectivement qu'elle ait un bagage différent. Mais quand ils n'ont pas la même vision du travail que vous, comment vous allez faire? Si c'est quelqu'un qui est très introverti, qui ne boit jamais le café avec ses collègues, qui n'est pas du tout dans le mode sociable avec vos collègues, surtout au bureau, on sait que dans les bureaux chacun ses affaires, si tout le monde commence à boire son café tout seul et ne pas passer du temps avec les autres, on n'est plus une équipe et on ira bien moins loin à court, moyen et long terme. Et si vous êtes manager, je l'espère, vous avez des ambitions, c'est sûr, mais court, moyen et terme, ça vous parle. L'objectif, c'est pas de flinguer les gens, c'est de construire un collectif qui, une fois que vous serez parti, pourra continuer à fonctionner, voire même en autonomie, par votre style de management participatif, en mettant les gens dans leurs responsabilités. Ça, c'est un point vraiment important, c'est quand on a la même vision du travail, les choses sont juste extraordinaires. Et quand les managers ne font pas l'effort d'embaucher les bonnes personnes, ben déjà, les salariés qui sont présents, ils se sentent démotivés. Mais pensez à la nouvelle personne qui va arriver une fois que la phase d'enthousiasme va se retrouver. Et il n'y a vraiment pas pire, disons les choses, que de galérer jour et nuit sur un projet alors que celui qui a été embauché reste les mains dans les poches et reçoivent une promotion. Et là, je peux vous dire que c'est le summum. Les meilleurs éléments, ils aillent voir ailleurs parce qu'ils cherchent une logique, une rigueur. Parce que quand on est responsable d'affaires, on a des faiblesses, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Mais à aucun moment, je suis vraiment précis là-dessus, on accepte avec ses équipes de rester les mains dans les poches. Et donc, si quelqu'un dans le collectif a les mains dans les poches de votre équipe, vous allez le recadrer, vous ne donnez pas une promotion. Mais par contre, si c'est votre manager qui fait ça avec un collègue, il lui donne une promotion alors qu'il met la main dans les poches, alors là, c'est catastrophique car tout se sait en entreprise et vous le savez. Sixième point, les managers n'aident pas les salariés à vivre leur passion. Ça, c'est, on en a parlé au début de ce podcast. Un employé talentueux, c'est aussi un employé passionné. Il faut que vous lui permettiez de vivre ses passions et ça augmente son niveau de satisfaction. Mais bon nombre de personnes, de managers, craignent que cela fasse baisser sa productivité. Alors, ils préfèrent les rabaisser, simplement, et que chacun travaille dans un cadre bien limité, défini, on ne fait pas plus. Et là, clairement, vous explosez tout. Vous diminuez la créativité, vous diminuez l'initiative, l'autonomie. Ça ne marche pas. Les gens doivent vivre leur passion. S'ils aiment traiter les affaires d'une certaine manière, c'est pas du tout comme ça que vous l'avez jamais fait quand vous étiez aux affaires, laissez-le faire. L'essentiel, c'est le résultat final. Et votre salarié, il a la réflexion, il a la logique, et vous le connaissez. C'est pas sa première affaire. Sinon, vous l'auriez accompagné, j'espère. Vous connaissez ça. Et donc, les managers n'aident pas les salariés à vivre leur passion jusqu'à les faire partir. Et une chose à ajouter, c'est que les études ont démontré, certaines études, que lorsque les gens peuvent exercer leur passion au travail, ils entrent dans une immersion euphorique, un état d'esprit 5 fois plus productif que la norme, 5 fois plus productif. Alors, laissez vos gens passionnés chez vous, donnez-leur des contreparties pour qu'elles continuent à être passionnées. Septième point, les managers n'aident pas les salariés à développer leurs compétences. Alors là, ça c'est le... c'est un point qui est extrêmement sensible. Essayez de parler à un manager de son manque d'attention envers ses salariés. Et il vous brandira directement le mot confiance, le mot autonomie et responsabilisation. Et ça rime absolument à rien. Même les employés les plus doués doivent être dirigés. Ça, c'est une phrase qu'il faut vraiment... Je me l'étais notée pour vous la donner. Même les employés les plus doués doivent être dirigés. Un bon manager doit leur prêter attention, être à leur écoute et leur faire part de ses retours. C'est encore une fois la reconnaissance. Parce que c'est toujours trop oublié. On ne doit jamais cesser de gérer ses employés. Si vous avez des chantiers, ça m'étonnerait énormément que vous n'appeliez pas vos employés pour savoir où ils en sont, ou savoir comment telle ou telle opération s'est passée, malgré la charge de travail que vous avez. C'est une bouffée d'oxygène que de savoir exactement où en sont vos employés et de trouver des domaines, les accompagner dans lesquels ils peuvent développer leurs talents et leurs connaissances. Parce que si les employés sont déjà compétents et qu'en plus, vous-même, vous leur dites « Voilà, j'ai vu sur ce sujet, t'es passionné ou t'aimes bien ça, je te verrai bien progresser là-dessus. » Eh ben, avant de prendre vos décisions, parlez-en à bâton rompu, en allant sur chantier ou en le voyant, mais dites-lui, je pense cette formation très bien pour toi, un complément, je t'aide à progresser. Si vous avez une vision de court, moyen, long terme, et que surtout vous êtes vraiment basé sur l'humain, que vous fichez éperdument de votre projet de carrière, vous pouvez être, vous, en tant que manager, dans 1 ou 2 ans, sûr que vous allez partir autre part, mener une autre vie ou une autre responsabilité. Mais ceci ne vous empêche pas de faire progresser la personne qui est avec vous, que vous savez compétente, et qui permettra à votre entreprise, plus tard, de pouvoir encore plus progresser. Honnêtement, dire cela, c'est pas dire qu'on est égoïste, c'est juste logique de vouloir dans son équipe des gens qui se renforcent, qui progressent, et que vous aidez en tant que leadership, c'est la première chose que vous devez faire. Un manager doit être un leader, car il n'y a pas de réussite sans leader, même si tout le monde a les mêmes compétences, il faut du leadership, et ce leadership doit s'inscrire dans une évolution à votre niveau, mais dans l'évolution également de vos collègues et vos salariés qui doivent un jour peut-être vouloir prendre votre place et qui doivent être préparés par des formations. Et ça, les plus compétents ont besoin de votre retour. Et c'est à vous de leur fournir, c'est à vous de leur dire. Et si vous échouez, et ben ils s'ennuieront, et ça c'est le meilleur des cas. Ils se reposeront sur leur laurier, ou alors ils prendront la porte sur un challenge avec un directeur, parce que à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que des salariés s'en vont, pas parce que leur travail leur déplaît, mais parce que leur responsable, leur leader, et ben se fiche complètement et éperdument d'eux, et ils vont chercher tout simplement un nouveau leader. Et quand ils sont à leur entretien d'embauche ou pour postuler sur un emploi, ils vont chercher à comprendre qui est en face d'eux et qui ici ils pourront leur faire confiance, et ils vont même interroger leur futur ou probable potentiel collaborateur dans la nouvelle entreprise pour savoir si ils vont vraiment pouvoir enfin ne plus s'ennuyer ou se reposer sur leur laurier ou se sentir abandonné. Huitième point, les managers n'arrivent pas à mettre à profit la créativité de leurs employés. Les employés les plus compétents veulent constamment améliorer le monde qui les entoure, et ça vous le voyez certainement. Et si vous les empêchez de transformer leur environnement, parce que vous privilégiez votre confort, et que vous préférez laisser les choses telles qu'elles sont, ils finiront par être dégoûtés de leur poste. Brider leur désir de créativité n'est pas seulement dommage pour eux, mais aussi pour vous. J'ai noté cette phrase parce que brider leur désir de créativité n'est pas seulement dommage pour eux, mais aussi pour vous. Parce que sincèrement, si vous ne mettez pas, vous n'aidez pas à vos employés à mettre de la créativité, à changer les choses, si vous êtes psychorigide au combien, ça a passé un temps, mais à un moment donné, C'est une décision personnelle du responsable que vous aurez avec vous. Il partira. Il partira. Parce que, sans contrepartie, c'est une galère de ne pas pouvoir modifier quoi que ce soit, de venir pendant 5-10 ans dans la même entreprise, le même bureau avec la même façon de faire, le même bureau, même endroit, la même chaise. C'est insupportable. Le monde est en perpétuel changement, nos clients changent, les affaires changent, les sous-traitants changent. Qui pourrait comprendre que un bureau reste à la même place tout le temps? Qui pourrait comprendre que les choses dans votre organisation restent toujours à la même place quand vos clients changent tout le temps, quand le monde change continuellement? Dire cela, c'est pas critiquer, c'est juste dire que vous devez pouvoir avoir une autonomie sur la créativité, sur les choses que vous voulez modifier. On prend l'exemple du bureau, mais ça peut être pour d'autres choses. C'est vraiment important. Neuvième point, les managers ne poussent pas les gens à dépasser leurs limites. Les meilleurs patrons sont ceux qui poussent leurs employés à accomplir l'impossible. Vous devez réussir, en tant que patron, à séduire votre employé pour lui donner une nouvelle affaire à risque. Et vous devez lui fixer des objectifs qui ne sont pas facilement atteignables. Il faut fixer des cibles ambitieuses qui obligent vos employés à sortir de leur zone de confort. Ils font de leur mieux pour les aider à accomplir la mission donnée. Parce que les individus intelligents et compétents, ils n'aiment pas se cantonner à des tâches faciles ou ennuyeuses et chercheront un emploi qui leur demandera de se dépasser. Surtout si vous avez des profils de sportifs autour de vous, c'est primordial de vraiment donner des challenges, ou en tout cas de dialoguer sur des challenges qui permettront de dépasser vos employés. Si vous ne faites pas ça, c'est malheureux pour vous, mais vous perdrez vos personnels à un moment ou à un autre. Et même si vous avez défini que vous allez progresser vous dans votre carrière et que ce n'est pas grave, ils se débrouilleront sans moi, non. Car vous n'êtes jamais sûr de votre succès. Et si dans votre équipe, vous n'avez personne qui vous aidera à avancer, vous n'avancerez pas aussi vite. Et donc si vous aidez les autres, eh ben vous progressez aussi. Car quand vous aidez quelqu'un, vous faites progresser quelqu'un. Vous posez des questions, vous revenez en arrière sur des réflexions que vous avez eues précédemment et vous leur permettez de se développer et vous transmettez vos connaissances. Et quand vous transmettez vos connaissances, vous les extériorisez, vous devenez meilleur et vous apprenez aussi à communiquer davantage et vraiment mieux. Donc, aidez vos collaborateurs à dépasser leurs limites. Les 9 points ont été cités. Pour conclure, vos employés les plus compétents, si vous ne voulez pas qu'ils partent, il va falloir que vous commenciez à réfléchir à la façon dont vous les traitez. J'aime bien prendre cette analogie avec gérer des affaires avec ses compagnons de chantier. Il est important de les traiter de la bonne manière. Si vous voulez qu'ils restent, pas parce que quand vous êtes responsable d'affaires, vous ne maîtrisez pas les contrats de vos collaborateurs, mais si vous voulez qu'ils retravaillent pour vous déjà une, vous devez bien les traiter. Même s'ils sont résistants, leur capacité leur ouvre de nombreuses portes. Et donc, il faut que vous leur donniez l'envie de rester. Parce que ces personnes-là, vous connaissez leurs capacités. Et si vous ne les retenez pas, ils vont partir. Donc vraiment, c'était le mot de la fin. Il est important que vous gardiez vos employés à court, moyen et long terme et ayez cette vision que vos ressources sont extrêmement importantes pour vraiment avancer et soigner vos employés. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère vivement de télécharger mon livre numérique gratuit, Comment rédiger des courriels efficaces pour faire avancer vos projets. Et par ailleurs, vous serez automatiquement abonné à mon newsletter pour recevoir tous les meilleurs articles. Et aussi.